VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Au Cameroun, le président Paul Biya a prêté serment pour un nouveau mandat ce mardi, son 7e à la tête d'un pays qu'il dirige depuis 1982. Dans son discours d'investiture, le chef de l'État camerounais a exhorté les sécessionnistes anglophones à déposer les armes et à revenir sur le droit chemin. Hier, des hommes armés non identifiés à Bamenda, chef-lieu de la région anglophone du Nord-Ouest, ont enlevé 82 personnes, dont 79 élèves. À Afrique centrale toujours, la ministre française des armées Florence Parly a mis en garde hier contre toute manipulation intéressée de puissance opportuniste en République centrafricaine. Il s'agit là d'une allusion à peine voilée à la Russie, faite hier au Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Le point avec Nani Talani.
Les violences intercommunautaires régulières nous rappellent que les équilibres restent fragiles dans ce pays. Dans ce contexte, toute manipulation intéressée de puissance opportuniste serait inepte, indigne, a déclaré Florence Parly en référence à l'influence grandissante de la Russie en RCA, sans toutefois la citer nommément. La France critique vivement la tentative russe d'engager des pourparlers de paix entre groupes armés concurrents aux efforts de l'Union africaine. Pour Florence Parly, il faut apporter tout le soutien à l'Union africaine pour préserver toutes les chances d'un règlement rapide et pacifique de la crise. Elle assure que tous les efforts internationaux sont bienvenus pour sécuriser la République centrafricaine, mais il faut que cela se fasse dans le respect des résolutions des Nations Unies et dans le respect de la médiation de l'Union africaine. Elle a martelé que toutes les autres initiatives opportunistes et souvent intéressées ne paraissent pas contribuer à résoudre de façon positive la situation sécuritaire dans ce pays.
La Mauritanie a dénoncé hier la décision américaine de lui retirer le statut de partenaire commercial privilégié en Afrique. D'après Washington, c'est en raison de la persistance des pratiques de travail forcé et d'esclavage héréditaire en Mauritanie. Plus de détails avec Morgan Guiriek.
Cette décision est une trahison des relations d'amitié entre les deux pays et une négation de nos efforts dans le domaine de l'éradication des pratiques esclavagistes, a déploré sur Twitter Mohamed Ould Maham, porte-parole du gouvernement mauritanien. Monsieur Trump aurait-il pris cette décision s'il s'attendait à un contrat de vente d'armes de 110 milliards de dollars avec nous ? A-t-il ajouté en référence aux commandes militaires saoudiennes évoquées par le président américain pour expliquer sa réticence à suspendre les ventes d'armes à Riyad après l'affaire Khashoggi. Ce retrait de la GOA sera effectif au 1er janvier prochain. Selon Washington, la Mauritanie n'a pas fait assez de progrès dans la lutte contre le travail forcé et l'esclavage héréditaire. L'esclavage a été officiellement aboli en 80 en Mauritanie. Le pays a adopté en août 2015 une loi faisant de l'esclavage un crime contre l'humanité réprimé par des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. La portée de la décision américaine est essentiellement symbolique vu le faible volume des échanges entre les deux pays.
En Côte d'Ivoire, les agents des hôpitaux et centres de santé publique ont entamé une grève de 5 jours pour réclamer de meilleurs salaires. Les précisions de Raïssa Girondin.
Les deux tiers du personnel de santé, les infirmiers, aides-soignants, sages-femmes, techniciens et agents administratifs sont en grève. Selon Sila Vazoumana, responsable de la communication de Cordi Santé, fédérant plusieurs syndicats, 9 centres de santé publique sur 10 sont touchés, dont les centres hospitaliers universitaires d'Abidjan et les grandes villes. Cependant, un service minimum était assuré pour les blocs opératoires et les salles d'accouchement. En revanche, les médecins n'ont pas appelé à la grève et étaient à leur poste de travail, selon Guillaume Essoac PC, secrétaire général du premier syndicat de la profession. Les agents de santé réclament des augmentations de salaire et des primes, ainsi que l'amélioration de leur statut. La Côte d'Ivoire connaît depuis 2 ans des grèves fréquentes dans la fonction publique, principalement pour obtenir des augmentations salariales et de meilleures conditions de travail.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Élection à Madagascar maintenant. Les Malgaches se préparent à élire demain leur prochain président. 36 candidats sont en lice, dont 3 anciens chefs d'État. Ce pays, il faut le dire, a traversé plusieurs crises politico-militaires ces dernières années. Pour analyse, Morgan Guiriak a joint le directeur de l'Institut d'études politiques de Madagascar, David Rajaon.
Peut-être que pour la première fois à Madagascar, il y aura une élection en bonne et due forme. Et bien évidemment, on espère qu'il y aura un président qui sera élu et que tout de suite après, il n'y aura pas encore une crise politique.
Justement, à quelques jours du vote, quelle est l'ambiance ?
On craignait au début en fait que l'élection va être reportée parce qu'il y a des candidats qui le réclamaient. On craignait également qu'on se verserait dans la violence. Mais jusqu'à aujourd'hui, en fait, tout se passe normalement. Une ambiance de campagne électorale avec des effets un peu festifs, mais également avec des échanges un peu virulents. Mais on a aussi remarqué que les candidats se pliaient au jeu démocratique, c'est-à-dire, entre autres, pour la première fois, il y a des passages de tous les candidats dans des débats télévisuels.
Vous êtes optimiste ?
Optimiste en termes, je dirais, ce jeu démocratique, mais toujours est-il qu'il y a un risque de glissement vers une contestation électorale, tout simplement parce qu'il y a trop d'enjeux, je dirais, personnels autour de cette élection.
David Rajaon, directeur de l'Institut d'études politiques de Madagascar. Élections aux États-Unis, les Américains se rendent aux urnes aujourd'hui pour des élections dites de mi-mandat. Sur le terrain, démocrates et républicains multiplient leurs efforts pour gagner ces élections, chacun de leur côté. Les précisions d'Irénée Herman Umbo.
Le président américain Donald Trump a jeté toutes ses forces dans la bataille. Hier, il était à Cleveland, dans l'Ohio, Fort Wayne, à Indiana, puis à Cap Girardeau, dans le Missouri. Démocrates et républicains ont multiplié leurs appels à la mobilisation. Allez voter, a demandé Donald Trump lors de son quatrième meeting dans le Tennessee. Son prédécesseur, démocrate Barack Obama, depuis Indiana, a indiqué de son côté que c'est l'âme même de notre pays qui est en jeu. Les démocrates qui espèrent prendre leur revanche sont donnés favoris pour reprendre le contrôle de la Chambre des représentants, tandis que les républicains devraient conserver la majorité au Sénat. Les élections de mi-mandat traditionnellement n'ont jamais été favorables au président en place. Les démocrates sous Barack Obama avaient ainsi subi une cuissante défaite. La perte de la Chambre, malgré d'excellents chiffres de l'économie américaine, pourrait être un revers pour Donald Trump.
Pour plus de détails sur la bataille féroce pour le contrôle du Congrès américain, John Lindon a joint ici à Washington Brett, président du think tank Global Situation Room.
C'est un moment dans lequel le peuple américain va prendre une décision si la voie que le président Trump a choisie pour notre pays, c'est la voie correcte. Ou bien, est-ce qu'on devrait changer un peu vers une balance entre les républicains et les démocrates?
Alors justement, les républicains détiennent actuellement le Sénat et la Chambre des représentants. Quelles sont les chances des démocrates de récupérer l'une de ces chambres ou toutes les deux?
Bien sûr, nous avons eu l'expérience il y a 2 ans. Quand les sondages indiquaient que peut-être Hillary Clinton va gagner, mais cette fois-ci, les indications sont que les démocrates, au moins, vont prendre la Chambre des représentants. Et il y en a des gouverneurs qui pourraient changer. Pour le Sénat, c'est beaucoup plus difficile à cause du fait qu'il faut défendre beaucoup plus de membres de leur parti dans ces élections.
On a vu à la fois Donald Trump et l'ancien président Barack Obama se lancer dans la campagne pour soutenir des candidats de leur parti. C'est une première ou ça, on a souvent vu ça? Qu'est-ce que cela implique?
Pour les anciens présidents, souvent, ils sont restés à côté de la politique quotidienne, mais souvent, ils participaient dans les élections pour leur parti. Cette fois-ci, je crois que ce que nous avons vu avec la présence prominente du président Obama, c'est que pour l'instant, on n'a pas vraiment une personne qui représente le Parti démocrate. Alors, il faut que M. Obama reprendre ses fonctions comme le représentant de son parti, au moins pour les prochains mois.
Brett Bruen, président du think tank Global Situation Room, il était interviewé par John Lindon. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.